deuxième était le son.
Transistor.
Chères auditrices, chers auditeurs, en ce lundi 10 octobre, nous sommes tous heureux d'accueillir à l'ENS de Lyon M. Serge Avedikian, Palme d'Or 2010 du court-métrage à Cannes, pour son ouvrage intitulé « Chienne d'histoire ». Je m'appelle Roméo Frati, à ma droite il y a Clémentine Perrineau, et nous avons tous les deux le plaisir d'interviewer Serge Avedikian pour Transistor, la web radio de l'ENS.
Quelle solennité!
Tadam! La solennité continue. Donc, Serge Avedikian, vous êtes de grands-parents arméniens qui ont immigré en France après le génocide de 1915. Vous êtes né en Arménie en 1955 et vous êtes définitivement installé en France lorsque vous avez eu 15 ans. Passionné de théâtre, vous avez monté votre propre compagnie en 1976 avant de vous lancer dans le cinéma. Et vous avez d'ailleurs décroché votre premier rôle dans « Nous étions un seul homme » de Philippe Valois à partir de 1997. Vous devenez également scénariste et réalisateur.
78. Nous étions un seul homme.
D'accord.
Après, il n'y a plus rien. Ça s'arrête avec « Nous étions un seul homme ».
Ça vient à la
solennité continue.
La solennité continue, exactement. Dans une autre perspective. Ouais. Donc, votre film « Chienne d'histoire » sur lequel nous allons nous entretenir dans quelques instants, réalisé en 2010, obtient donc la Palme d'Or au Festival de Cannes. « Chienne d'histoire », c'est le récit d'un événement historique méconnu. En 1910, Constantinople est envahie par les chiens de rue. Le gouvernement des jeunes turcs, influencé par un modèle de société occidentale, décide d'éradiquer ces chiens et fait appel à des experts européens pour choisir une méthode d'élimination avant de trancher pour une déportation massive des chiens sur une île déserte. Plus de 30 000 chiens sont déportés. Comment l'idée de ce court-métrage vous est-elle venue ?
Formidable la question, c'est après d'avoir raconté toute l'histoire. L'idée m'est venue en lisant le livre de Philippe Videlier, qui est lyonnais, au cas où vous ne le sauriez pas, qui travaille au CNRS, il est historien-chercheur au CNRS de Lyon. Philippe Videlier s'est beaucoup intéressé à l'histoire de l'Empire ottoman, et des Arméniens aussi en particulier. Et il a écrit un très beau livre que je vous conseille, qui s'appelle « Nuit turque », qui est édité chez Flammarion, je crois, qui est un livre pas très épais, de 170 pages à peu près, et où il étudie de façon minutieuse, à travers des archives qu'il a traduites de l'ottoman, la personnalité du triumvirat des jeunes turcs, c'est-à-dire Enver Pacha, Talat Pacha et Cemal Pacha, que je représente dans le film sans les nommer, le triumvirat qu'on voit, il étudie leur personnalité pour savoir comment ils sont arrivés au pouvoir, quelle était leur coalition et leurs différences, et qui était intéressé par quoi, dans le fond, dans ce pouvoir. Et dans ce livre, vers le début du livre, il met le doigt sur cette histoire en disant que c'est la première décision un peu sociale que ce triumvirat devait prendre, comme ils étaient à la tête de... en 1910 à la tête du gouvernement, c'est la première décision, je dirais, oui, pas politique, mais sociale, disons, sur la ville d'Istanbul, de Constantinople à l'époque, qu'ils devaient prendre et qu'ils ont pris. Et c'est là où il met le doigt sur quelque chose de très intéressant qui m'a vraiment tout de suite interpellé, c'est l'envie, le désir, la pensée de ces gens de l'époque qui avaient fait leurs études en Occident et qui avaient très envie que Constantinople, en tout cas, ou la Turquie, l'Empire ottoman, ressemble à l'Europe, déjà à l'époque, il y a 100 ans de ça, donc, ressemble à l'Europe et puisse appliquer des mêmes valeurs qu'en Europe, même s'ils étaient musulmans. Et ces mêmes valeurs, c'était propreté, hygiène. On est en plein 1910, on est en plein début de siècle, comme ce qu'on est en train de vivre maintenant, 100 ans après, un début de siècle un peu mouvementé, où il est question d'hygiénisme, et il est question de positivisme, c'est-à-dire que la science fait son entrée sur le territoire de la politique et des décisions à prendre, comme l'écologie aujourd'hui, pour vous donner des exemples. Hein. À l'époque, c'était la science par l'hygiène, par la transmission, le génétique, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est l'écologie, c'est un tas d'autres choses qui sont aussi scientifiques, d'une certaine façon. Donc, ils vont prendre cette décision de l'éradication des chiens au nom de cet hygiénisme, au nom de ce positivisme, pour, d'une certaine façon, faire plaisir ou montrer aux Européens qu'ils avaient les capacités, eux aussi, d'avoir une pensée positiviste de l'époque. Sauf qu'ils vont le faire à leur façon, et ce qui m'a moins intéressé vraiment à raconter, c'est la façon dont les choses se sont passées. C'est-à-dire, pourquoi l'exil sur une île plutôt que l'éradication proposée par l'Institut Pasteur, qui était justement plus occidentale, plus européenne, plus scientifique, mais anti-religieux, d'une certaine façon, trop pragmatique, trop matérialiste, trop scientifique. Et donc, il y a ce lien entre la pensée se voulant occidentale et celle que l'Occident propose qui va être refusée, qui m'a intéressé. C'est parti du livre de Philippe Lidelier, mais il faut savoir qu'il y a d'autres écrits que j'ai été fouillé évidemment après. On connaissait tous cette histoire des îles aux chiens. Quand on est arménien et qu'on a un grand-père qui n'est pas très loin d'Istanbul ou en Anatolie, cette histoire des chiens sur une île, on connaissait, mais on ne savait pas très bien comment les choses s'étaient passées. Et là, je commençais à fouiller, à gratter, à savoir comment les choses s'étaient passées. Et j'ai découvert les écrits de Remlinger, donc ce médecin français qui était en poste depuis 10 ans, depuis 1900, et qui représentait l'Institut Pasteur, qui était à la tête de l'Institut Pasteur à Constantinople, qui va lui aussi raconter qu'est-ce que c'était que cette histoire des chiens. C'est au Mercure de France, c'est passionnant à lire. C'est un type qui adore les chiens d'ailleurs, et qui n'a pas digéré de la façon dont les choses se sont passées, alors qu'il a fait une proposition et que les choses se sont passées autrement. Et donc j'ai fouillé ça, et puis d'autres écrits aussi. Et donc j'ai écrit le scénario en me fondant sur des faits réels, sauf que, on en parlera peut-être après, sur d'autres questions, le scénario est quand même aussi très poétique, très éludé, et vu que j'ai pris le parti qu'il n'y aurait pas d'explication, qu'il n'y aurait pas de texte, qu'il n'y aurait pas de dialogue dans le film.
Un simple détail qui me vient, est-ce que, par hasard, vous avez lu aussi Autre cauchemar de Yigit Bener ?
Non.
L'écrivain turc. Non, parce que je me demandais, parce qu'il y a question, là aussi, du rejet de la
livre. C'est un livre récent.
C'est un livre, oui, tout à fait récent.
Oui, non, mais moi, j'ai fait le film avant que le livre sorte, je crois. Ah, ce livre. Moi, je vous parle de livres anciens. Philippe Videlier, c'est un livre qui a une dizaine d'années, un peu moins. Et Mercure de France, c'est 1936, un truc comme ça, c'est vrai. Donc, j'ai essayé plutôt de fouiller du côté. Mais c'est vrai que plus ça va, en fait, c'est 2010, les 100 ans de cette histoire qui ont fait qu'il y a un tas d'écrivains turcs contemporains d'aujourd'hui qui se coltinent cette histoire. Et le film n'est pas innocent. La Palme d'Or non plus n'est pas innocent. Par rapport à ça, ça a donné des idées, je crois, à certains d'exploiter ce truc. Il ne faut pas oublier que, et c'est là où on parlera tout à l'heure du documentaire, j'ai eu très envie de faire tout de suite après un film documentaire, bien avant que le film Chien d'Histoire soit exploité d'ailleurs. Je voulais vraiment une suite pour, en écho, non pas expliquer, mais expliciter qu'est-ce que c'était qu'Istanbul 2010, c'est-à-dire 100 ans après Constantinople 1910, comment l'histoire des chiens des rues continuait à être perpétuée, et qu'est-ce que c'était que la capitale européenne de la culture pour Istanbul en 2010, par rapport à ces trucs d'hygiénisme et tout ça, par rapport à l'Europe.
Très bien. Et pour aborder une autre perspective, et pour oser un petit chiasme, si je peux dire, est-ce qu'on pourrait dire que cette histoire de chien, en quelque sorte, est le reflet d'une chienne d'histoire, Autrement dit, est-ce que cette métaphore animale que vous nous proposez, est-ce qu'elle est la métonymie d'une histoire elle-même dévastatrice et oublieuse ?
Oui, je vois où vous voulez en venir, mais on va y venir. Alors, moi, ma position, elle est particulière vis-à-vis de ça. Oui. D'abord parce que je pense que j'ai essayé de raconter une vraie histoire. Je n'ai pas inventé cette histoire. Elle existe. Même si le film est stylisé et tout ça. C'est vrai que le fait d'avoir fait un film d'animation à partir de peintures animées et tout ça, ça donne envie de dire que c'est une métaphore. Alors que moi, je considère que c'est plus un film documentaire qu'une métaphore.
D'accord.
Si. Parce que je mets une date, un lieu, des écrits, parfois minimalistes, mais quand même, qui sont des vraies choses écrites qui nous ont été.
On voulait vous demander d'ailleurs si on pouvait parler de document fiction pour.
Oui, on peut. Moi, je trouve que c'est un film documentaire, sauf que c'est poétique parce que c'est à partir de peinture, sauf que c'est en effet construit d'une façon non didactique. C'est du documentaire non didactique, si je puis dire. Et vous savez bien sûr que depuis quelque temps, entre guillemets, le documentaire d'animation est un peu à la mode. depuis Valse avec Bachir, depuis Chaîne d'Histoire, tout ça, il y a pas mal de jeunes qui commencent à se coltiner. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir comment on peut s'accaparer du réel en le stylisant, en le transformant. Pour revenir à la question, je dirais en fait que ce qui m'a vraiment intéressé, c'est d'une part l'histoire réelle, et d'autre part, comme je connais bien l'histoire des Arméniens dans l'Empire ottoman, moi-même étant d'origine arménienne, je ne peux pas oublier que les réels massacres des Arméniens ont commencé dès la fin du 19e, en fait, sous Abdulhamid, qui c'était des massacres sporadiques pour juste prévenir les Arméniens qu'il ne fallait pas trop qu'ils bougent dans le sens que les Arméniens commençaient à demander à devenir des citoyens normaux, c'est-à-dire à ne pas payer plus d'impôts, à avoir des mêmes droits. C'était ça leur demande, hein. C'était pas du séparatisme, c'était pas du nationalisme. C'était juste, on est des citoyens ottomans, mais on veut être considérés comme au même titre que les Turcs. Donc, ce qui n'était pas le cas pour les minorités chrétiennes en particulier, les Arméniens encore en particulier. Et en 1909, en ce sens où les jeunes Turcs vont commencer à prendre le pouvoir et destituer le sultan, les jeunes Turcs vont sous le sultan encore, en 1909, commettre un massacre de masse, mais extraordinaire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à Adana, qui est une ville moyenne, où il y a pas mal d'Arméniens, ils vont trucider en 3 jours 30 000 Arméniens. Pendre, tuer de façon innommable, c'est quand même incroyable. Et c'est juste avant la prise de pouvoir... des jeunes Turcs, ça. C'est une façon de mater et de montrer que lorsqu'ils auront le pouvoir, ils sauront quoi faire. Alors qu'ils prônent la proximité des chrétiens, la proximité des minorités, une révolution commune avec ceux qui veulent destituer le sultan et faire de cet empire ottoman malade quelque chose de plus moderne et tout ça. Donc voilà. Et donc, les chiens arrivent quelques mois après, l'histoire des chiens. Donc c'est pas sans lien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais moi, je parle... C'est nous qui extrapolons là en ce moment en train de parler. Le film parle de rien de tout ça.
Mais là, il conçoit cet horizon en fait des événements antérieurs et postérieurs.
Vous savez, moi je pense que les vertus d'un film, c'est de donner envie aux gens de creuser, d'être émus sur le coup, que l'entité de l'objet cinématographique puisse être un champ magnétique émouvant, suggestif et tout ça. Mais en même temps, donner envie de creuser, d'aller plus loin, et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais il faut bien dire aux auditeurs que le film ne parle pas de tout ça. Et même le documentaire, moi j'ai pas voulu sciemment aborder le génocide des Arméniens, les 5 ans plus tard et tout ça, parce que je considère que c'est plus à moi de faire ce travail, c'est aux auditeurs justement et aux spectateurs. C'est ça qui est bien.
Et par contre, l'européanisation, par contre, de Constantinople, c'est un thème assez central du court-métrage, parce qu'on est assez frappé de constater que les seuls mots écrits, en fait, qui apparaissent sont aussi en français, donc il y a des signes assez forts de cette européanisation. Est-ce qu'on peut y voir une métaphore, en fait, d'une entente autour d'une sorte de culture de la violence partagée ?
Laissons de côté le mot métaphore, parce que la vie politique et scientifique n'est pas métaphorique, je crois. C'est très pragmatique et concret. Je crois vraiment que oui. C'est-à-dire que les jeunes Turcs, je le répète, ont fait leurs études. La plupart, hein, 80% des gens du gouvernement jeunes Turcs, à l'image du Triumvirat, ont fait leurs études à Zurich, à Paris, à Vienne. Ils parlent français. À l'époque, c'est ça qui était à la mode. Ils partagent ce qui est en train de se passer en Europe en termes d'aspiration. Ils ont lu des grands auteurs européens de l'époque. Ils sont au courant des révolutions qui ont eu lieu. Et donc, ils viennent s'accaparer du pouvoir pour penser que... Parce que l'Europe appelle à ce moment-là l'Empire ottoman, n'oublions pas, l'Empire malade de l'Europe. Non, attends.
Le grand homme malade de l'Europe.
Enfin, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'était une façon de distinguer. Mais 100 ans plus tard, on le retrouve aussi aujourd'hui par rapport au fait que la Turquie frappe à la porte de l'Europe et l'Europe refuse. Donc, c'est exactement les mêmes processus. Hein. L'histoire, elle est quand même répétitive. Elle prend des formes différentes. Elle utilise des dialectiques différentes, mais elle est quand même très répétitive. Et donc, je pense qu'en effet, que le positivisme dont j'ai parlé tout à l'heure, le rapport à la science, à l'hygiénisme et tout ça, est très, très à la mode à ce moment-là. Et les jeunes Turcs veulent l'importer en venant eux-mêmes prendre le pouvoir dans l'Empire ottoman, aidés par les Occidentaux. Donc moi je pense que les chiens c'est un peu la résultante de ça, et je dirais que le génocide des Arméniens c'est un génocide européen, entre guillemets, pour moi. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'aux confins de l'Europe, il y a les Allemands qui sont là quand même, qui sont alliés les Turcs à ce moment-là, aux confins de l'Europe, on va voir une exécution assez calculée de comment on déporte, comment on élimine au fur et à mesure, comment on laisse mourir, comment on laisse crever, comment on laisse des bandes armées envahir le truc, comment on crée des comités en sous-main pour mener tout ça à bien, voilà. Et comment on cache aussi tout ça. Donc, voilà, ce que les nazis feront plus tard, sans qu'on compare directement, on en parlera aussi peut-être, c'est encore plus élaboré, encore plus... Mais toujours sous le même processus. Temps de guerre, on cache les choses sous des aspects de on écarte les gens, c'est dangereux, on les déporte, mais on les tue pas. Là, c'était des camps de travail, plus tard. Voilà. Donc, on peut faire ce lien, donc pour finir, répondre à cette question, on peut faire absolument ce lien par la fascination qu'ont les jeunes Turcs de l'Europe de l'époque.
Néanmoins, enfin, nous, on a été, Clémentine et moi, on a été amenés à penser ça parce qu'on s'est sentis plutôt angoissés. Et d'ailleurs, par rapport à cette poétique de l'angoisse, je crois que Clémentine a une question qui lui tient particulièrement à cœur.
Allons-y, Clémentine, nous vous écoutons.
Oui, en fait, parce que si on se place d'un point de vue purement esthétique, en fait, on remarque donc, que le court-métrage aussi, entre le tableau, le dessin animé, le film muet, et différents éléments vont participer d'une esthétique qui va cristalliser toute la tension de l'événement, de cet événement historique,
et
tout en plongeant le spectateur, voilà, dans une angoisse, dans une véritable angoisse, et notamment la musique. En
la
fait.
Musique. Oui.
Et que pensez-vous de cette esthétique? Est-ce que vous partagez cette perception?
Je me permets de revêtir un nez.
Mais oui, mais oui,
avant de répondre à cette question. Non, non.
Monsieur Abedike, on vient de mettre le chapeau du zoom sur son nez, en fait.
Non. Clémentine a un don particulier, il faut dire, c'est-à-dire qu'elle pose des questions, mais elle répond aussi aux questions qu'elle pose, puisque les réponses sont à l'intérieur. Mais c'est souvent que les journalistes font ça, donc c'est une déformation déjà professionnelle. Vous me permettrez, chère Clémentine, de vous dire que vous serez une excellente journaliste plus tard si vous avez envie de vous exercer. Oui, 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 il y a tout ça. Mais comment vous dire, vous savez, quand on fait un film, en tout cas moi, je ne veux pas être dans un ingénariat, un calcul scientifique, justement, de ce que je suis en train de faire. Je laisse une réelle part à l'intuition. Évidemment, les grandes lignes sont absolument travaillées, archi-travaillées. Il y a déjà un scénario très précis, très, très, très analysé. Il y a un storyboard, il y a des choix de fond qui sont... Par exemple, j'ai voulu du pictural fauviste, parce que je savais que cette histoire allait être dur à raconter, dur dans le sens ce qu'on allait subir en vivant cette histoire. Je voulais que les couleurs soient très présentes, sauf sur l'île un peu. Mais donc, c'est sciemment que j'ai été chercher un peintre qui d'ailleurs ne peignait plus, était dans le dessin, Thomas Azuelos pour ne pas le nommer, mais que j'ai ramené à ce qu'il repeigne de façon fauviste. Tout ça, on a fait des essais, tout ça. C'est sciemment que j'ai demandé à Michel Karski de travailler sur une musique relativement répétitive, mais en même temps très, très, comment dire, dure. Voilà, parce que ça permettait que tous ces éléments puissent à la fois fusionner et cohabiter et permettre de ne pas assassiner le spectateur encore que c'est dur, parce que je savais que le film allait être inéluctable, c'est-à-dire qu'on allait de plus en plus vers une fin terrible, quoi. Il n'y a pas d'happy end, quoi.
Non.
Donc, voilà. Alors, en ce sens, chère Clémentine, je dirais que tout ce que vous avez énoncé, que j'ai déjà oublié, c'est tout à fait vrai. Non, non, mais ceux qui nous écoutent ont compris, je crois, ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que mon souci a été d'essayer de faire un film qui n'est pas fait de collage, qui n'est pas fait de juxtaposition d'éléments, mais comme tout film réussi, c'est tous les éléments choisis doivent absolument être fusionnels à un moment donné et créer.
Oui,
voilà. Mais vous, après coup, vous dites, oui, alors il y a du cinéma muet, il y a de la musique, etc. D'accord, moi je veux bien, mais les gens qui regardent ça, ils ne voient pas ça. Ils sont pris dans un champ magnétique, ils partent avec et ils sortent de là avec une émotion. Après, on peut analyser, en effet. Mais je pense que ce qui compte pour un film, c'est d'arriver à tenir un récit tout en étant d'une certaine façon assez abstrait. C'est-à-dire que chaque instant puisse être intriguant. Parce que ce qui est intéressant dans le scénario, c'est que la réponse n'est pas donnée tout de suite. quand les jeunes Turcs se mettent à refuser ce que Remlinger propose, on est là au début du film, fin du premier tiers du film, où ils doivent prendre une décision. Et on ne sait pas quelle est la décision qu'ils ont prise. Et on va, nous, spectateurs, assister à l'enlèvement des chiens, à la déportation des chiens, au fait que les chiens se noient, au fait que les chiens meurent de faim, au fait qu'il y a une culpabilité de la part de celui qui est celui qui a témoigné auprès du gouvernement, qui est le soldat, le peuple, quoi, d'une certaine façon. J'ai voulu ça, par exemple, ça, c'est moi qui l'ai inventé. Ce personnage, il n'existait pas dans l'histoire. Il fallait bien que ça passe par quelqu'un, par le filtre de quelqu'un, si vous voulez. J'ai voulu très suggestivement que ça soit un jeune soldat du peuple. Il habite en bas de la ville, d'ailleurs, on le voit à la fin du film, quand il se ferme les oreilles, c'est que les aboiements des chiens sont insoutenables pour ceux qui ont été témoins de cette histoire. Donc, c'est ça le médium. Voilà, ça c'est de l'écriture, ça s'appelle l'écriture cinématographique, dès le départ dans le scénario on a ça, mais après il faut arriver à faire vivre ça avec des éléments réels, picturales, et le son est très important au-delà de la musique, l'univers sonore d'un tel film, vu qu'il n'y a pas de dialogue, c'est très très important, même s'il y avait des dialogues, c'est très important parce que d'un seul coup on est en ville, on est sur l'île, on est en mer, on est sur un bateau, il y a des moments de silence dans ce film qui sont terribles, quand le bateau passe. Le dernier chapitre du film, quand le bateau de touristes jaune, comme ça, félinien, passe, il y a un silence avant que la musique recommence, alors qu'on a vécu quelque chose de très dur. J'ai osé ça, alors que ça, le film aurait pu retomber à ce moment-là, mais en fait, non, ça apporte quelque chose de ce témoignage impuissant des peuples. C'est comme ça, quand il y a des génocides au loin, tout ça, les politiques tergiversent, il y a de la diplomatie qui travaille, mais les peuples restent impuissants. De certaine façon, ce qui doit être fait est fait. Ils sont juste témoins de ce qui est fait. C'est ce que je voulais dire dans le film par rapport aux chiens.
Et vous avez également été chercher des sons, du coup, des sons d'ambiance.
Oui. Non, mais on utilise beaucoup la bruité, évidemment, mais on a, oui, des sons d'ambiance, de mer, de ville, d'Istanbul, tout ça. Bon. Mais ça, c'est plus, ça concerne plus le documentaire qui vient après, où il y a beaucoup, où c'est vraiment Istanbul aujourd'hui. Petit silence, c'est bien la radio, moi je trouve.
On est des témoins, moi aussi.
Tu
veux t'occuper de cette question?
Oui, d'accord. Oui, pour la réalisation proprement dit, donc vous avez déjà un peu développé quand même. Comment vous avez procédé en fait? Vous avez fait appel au dessinateur, au peintre.
Oui, en fait, c'est mon troisième film d'animation. J'en ai fait que trois. Et j'en ai fait à chaque fois. J'ai fait un film d'animation parce que je considérais que ce que je voulais raconter n'était pas possible de raconter en prise de vue réelle. C'est simple hein, comme approche. C'est-à-dire si c'est l'horreur, si c'est trop violent, je considère qu'on ne doit pas recréer ça, soi-disant en vrai, en réaliste, pour faire peur au spectateur. Mais il faut donner au spectateur la possibilité de sentir ça, de subir ça, sans être pris de malaise, si vous voulez. Moi, je considère que les films dits américains ou autres, ou français, qui usent de la violence directe, tout ça, sont des hérésies de cinéma. Parce que,
je suis entièrement d'accord.
C'est absurde. Parce que la suggestion.
Oui,
la suggestion au cinéma, c'est tellement plus fort.
C'est tellement plus fort, oui.
C'est comme, si on montre tout, on devient porno.
C'est pas la peine de faire un film.
Si on est érotique, on est beaucoup plus fort. Et c'est pareil pour la violence. Je fais ce parallèle un peu facile, hein, un peu machin. Mais bon, pour vous dire que l'art cinématographique est empreint de cette possibilité d'être dans la suggestion, dans la proposition, et non pas dans le « prenez ça dans la gueule ».
Oui, je suis entièrement d'accord. Voilà.
Donc, comme c'était mon troisième film d'animation, et que je ne viens pas de l'animation, et que moi-même je ne suis pas peintre, je sais un peu dessiner, mais à chaque fois je travaille avec un peintre différent, je choisis un peintre pour pouvoir raconter l'histoire que je vais raconter, donc je choisis un style. J'ai fait donc « Ligne de vie » avec Raymond Delvax. J'ai fait Un beau matin, issu de Matin brun de Frank Pavlov. J'ai adapté cette nouvelle très très connue avec Solveig von Kleist comme peintre, et là avec Thomas Azuelos. Et j'ai essayé, avec mon ignorance de départ, puisque je ne suis pas ni animateur ni très proche des nouvelles technologies, j'aime beaucoup, mais je ne suis pas quelqu'un qui est capable de me mettre devant un ordinateur et de dire voilà, je vais faire du montage, du trucage, tout ça. Non, je saurais dire ce que je veux faire, mais les faire moi-même, je n'ai pas appris à les faire. Donc, j'ai une forme d'ignorance par rapport à ça, mais je crée une équipe avec qui je vais travailler comme un metteur en scène travaille avec des comédiens ou comme un chef d'orchestre travaille avec des musiciens. C'est des instruments, si vous voulez, dans le sens grand du terme, que j'utilise. C'est des comédiens que j'utilise. D'ailleurs, je les dirige souvent comme des comédiens. C'est-à-dire que je leur donne des rôles à jouer. C'est-à-dire que j'ai l'animateur là, j'ai à ma gauche, devant un écran. J'ai le spécialiste des effets spéciaux là, à ma droite. Tous les deux ordinateurs sont liés à une salle de montage qui se trouve plus loin, où il y a la monteuse qui vient quand j'ai besoin qu'elle vienne pour qu'on monte. Quand je considère qu'une image est finie en réseau, ça passe de l'autre côté. Il y a le compositeur qui m'amène de la musique parce que je travaille chez lui le matin ou le soir à la composition. J'assiste aux enregistrements des musiciens, tout ça, et puis je ramène de la musique que je mets aussi là. Ça veut dire qu'en fait, je travaille comme un work in progress à partir de tous les éléments qu'on a. Et le peintre, lui, peint dans son atelier. Il m'envoie des éléments que je commente. Et il les finalise, il les scanne, il nous les envoie et on met en machine et on commence à travailler. C'est-à-dire que je fais la mise en scène d'un côté avec l'animateur. Je mets en mouvement. Mmh. Vous avez remarqué qu'il y a très peu de mouvement, en fait. À part au début où j'ai voulu que les chiens soient quand même souples. Figés, ouais. Mais ce n'est pas des plans figés. C'est des plans à l'économie du mouvement. Ce n'est pas ouais. Pareil. C'est des plans. Quand quelque chose ne bouge pas, c'est le plan lui-même qui bouge.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a peu de choses figées. Le cinéma, justement, ne supporte pas le figé. Le figé, c'est de la photographie ou c'est de la peinture. Là, c'est quand même de la peinture animée, mais c'est les profondeurs de champ qui travaillent. Et vous ne vous rendez pas compte, mais ce qui fait vivre tout ça, c'est qu'il y a énormément de photographies.
Oui, voilà, il y a quand même un rapport à la photographie.
Énormément de photographies derrière, mais qui sont empreintes du grain de la peinture. Alors ça, c'est mon travail, c'est-à-dire que j'aime être archiviste, j'aime trouver des photos, j'en demande qu'on m'en scanne de partout, je vais sur des sites, et alors une fois qu'on a animé les peintures, c'est-à-dire c'est la mise en scène propre à l'action, que ça a du sens, un chien traverse là, une vieille passe là, enfin tu vois, ce qui est écrit quoi. Une fois qu'on a fait ça, cette image arrive à ma droite, si je puis dire, et là on travaille sur toutes les photographies que j'ai envie qu'ils soient en dessous, toutes les matières. Par exemple, je dis tiens, l'arbre est bien dessiné, mais moi j'ai envie que les racines soient en trois dimensions, donc je vais descendre en bas, on travaille à Paris, je vais faire des photos, c'est ça le numérique, c'est extraordinaire, je vais faire des photos des racines de platanes parisiens, on va les monter, on va les appliquer, on va voir que ça marche avec ça. Pareil pour de la terre battue, j'avais envie que le sol de cette place où la chienne vient dormir soit en terre battue, et ben je vais faire des photos, je vais les amener, on va les appliquer. C'est ce mélange des matériaux comme un peintre, sauf que là c'est à partir de photographies, de peintures, de mouvements. J'ai mis en place ce système de travail que finalement peu de gens utilisent parce que les gens qui font de l'animation sont ou dessinateurs eux-mêmes ou animateurs eux-mêmes, ça. Donc ils utilisent leur technicité, leur capacité de le faire. Moi c'est le contraire, j'utilise des matériaux, voilà, et puis je me sens libre surtout de le faire, du coup je fais des choses qu'ils ne font pas d'habitude, c'est-à-dire j'anime peu, j'ose le minimalisme, mais je crée des profondeurs de champ, j'ajoute des lumières, de l'eau qui va couler, des mélanges de matériaux qui vont faire qu'on va obtenir. On va rester. En fait, ce qui compte, c'est le pictural. Le pictural est devant, mais c'est assez chargé de choses assez réelles, en fait, qui viennent faire vivre ce pictural. Et pour moi, c'est essentiel que l'image soit transcendée, qu'elle soit picturale, parce que j'aime la peinture, mais aussi qu'elle soit vivante, qu'elle exprime quelque chose au-delà du beau, qu'elle exprime une émotion. Donc, j'ai mis en place ce système, ce qui fait qu'on est cinq, on fait un film comme ça à cinq personnes. Et alors que l'animation, en général, ils sont 50 à coloriser, à machiner, à mettre en mouvement, faire des dessins. Bon, c'est un autre type d'animation. Moi, j'ai choisi de faire une animation, ce que j'appelle de la peinture animée, qui est extrêmement minimaliste, mais qui raconte des histoires très suggestives. Donc, Ligne de vie, c'était un camp de concentration. Je ne vois pas comment on peut montrer qu'on coupe les mains d'un peintre, justement, qui vit dans un camp de concentration, pour plus qu'il peigne. Je n'allais pas faire ça en image réelle, ça me paraissait... Alors qu'en peinture un peu abstraite, ça marche. La même chose pour Un beau matin, c'était une ville imaginaire, tout ça. Donc j'ai pu mettre en scène quelque chose d'irréel, mais en étant très proche du réel. Chien d'histoire, pour revenir à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, est aussi emprunt de photographies anciennes qui arrivent dans de la peinture faite aujourd'hui. Et c'est toute cette relation-là. Donc c'est de l'artisanat, puisque pour résumer, c'est de l'artisanat, on fait un film à 5 ou 6 personnes, ça se passe dans un lieu unique, mais on a énormément de matériaux qui arrivent. Il y a un peintre, il y a un compositeur de musique, qui sont les deux pôles, je dirais, dramaturgiques. Après, j'ai un animateur avec qui je fais la mise en scène et le mouvement. J'ai un compositing d'image, un compositeur d'image avec qui je fais tous les trucages, les superpositions, les trucs. Et j'ai quelqu'un avec qui je fais le montage. Et après, on mixe, on bruite et on mixe. Donc voilà, on est six, quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup.
Et si l'on revient sur cet amour de la peinture, en fait, que vous nous décrivez, il a une racine arménienne, en fait.
Total. Il faut savoir que les Arméniens, c'est, de par leur religion chrétienne orientale, ils sont très très proches de la représentation. Donc la peinture a toujours existé, contrairement à certains autres peuples qui, de par leur religion, la représentation de l'image était moins présente, je dirais. Elle a souvent été religieuse, par les miniatures et tout ça, par les canons, comme on dit, mais après, elle est devenue artistique. Donc, moi, j'ai été baigné dans... Je suis né en 55 en Arménie, et la peinture était à son apogée, avec des grands peintres, Fauvis, justement, que j'ai toujours aimé, et d'autres, des jeunes. Je posais pour des peintres d'un peu plus âgés que moi, pour... moi-même, j'ai fait un peu de peinture. C'est-à-dire que, moi, je me rends compte que lorsqu'on... On accepte d'être l'artisan de sa propre mémoire. On laisse surgir en nous les choses profondes qui sont en nous. C'est avec ces matériaux-là qu'on fait les choses. Et c'est là, d'ailleurs, je pense qu'on touche profondément les gens. Parce qu'on est tellement proche de quelque chose de mystérieux en nous-mêmes donc, qu'on veut transmettre. Mais il faut évidemment trouver l'histoire qui va avec. Ça. Donc, c'est très intime ce qu'on partage. C'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Par exemple, je réapprends le russe pour jouer en russe. Je viens de retourner un film en Arménie, en arménien, alors que c'est une langue que je pratique très peu, dans le fond. Voilà, c'est des trucs de l'enfance et de l'adolescence qui ressurgissent. C'est très intéressant, mais ça demande une grande liberté intérieure, un espace intérieur qui voilà, qu'on n'est pas sur des rails, quoi. Moi, je suis jamais resté sur des rails. C'est ce qui fait que je passais du documentaire à la fiction, de la fiction à l'animation. Je reviens comme comédien. Je vais remettre quelque chose en scène au théâtre ou à l'opéra. Je trouve que voilà, que cette circulation-là de l'art, quand on a des choses à dire, fonctionne. D'aucuns, en regardant de l'extérieur, peuvent dire que je suis multicarte, pluridisciplinaire. Enfin, on met toujours des noms sur les trucs. Moi, je ne sais pas ce que je suis. J'ai l'impression de faire toujours ce que je trouve juste vis-à-vis
selon
de...
vous avez l'intuition.
Voilà. Mmh. La part de l'intuition est très importante.
Monsieur, comment le film Chienne d'Histoire a été accueilli en Turquie, puisque la Palme d'Or a participé de sa médiatisation?
Évidemment. Je pense qu'une Palme d'Or, ça passe pas inaperçu. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que justement, au moment où on l'a reçu, était à ma gauche... le coproducteur de Turquie, Osman Kavala, parce que j'ai tenu à ce qu'il y ait une coproduction turque pour ce film, parce que je voulais le légitimer d'une certaine façon, et dire aussi qu'en Turquie, il y a des gens qui ont envie que ce qui est caché, la face cachée de l'histoire, apparaisse. Mmh. Il y a des démocrates, il y a des gens qui ont envie que l'histoire soit reconnue, et je voulais que les gens le sachent. Non seulement les Arméniens, mais aussi le reste du monde sache qu'il y a des gens dans des pays qui sont en résistance, qui font des choses, qui osent des choses. Et Osman Kavala est de ceux-là. Et donc il y avait une coproduction turque. Et ça non plus, c'est pas passé inaperçu. Ça légitimait aussi le film, politiquement presque, je dirais. Et donc, dans la foulée, la télévision, la chaîne NTV, qui est une chaîne très importante en Turquie, qui est une chaîne indépendante et privée, d'informations continues, mais aussi de documentaires et autres, a acheté le film pour eux là-bas et m'a invité à faire une interview en direct, à le présenter. Et après, il y a eu un débat de 2 heures avec des spécialistes des chiens des rues et d'aujourd'hui, des collectionneurs de photographies de chiens de rue, en fait, tout ça. Moi, je ne pouvais pas participer au débat parce que c'était en turc, mais j'ai fait le chapeau, disons. Il y a eu le chapeau avec moi de pourquoi vous avez fait ce film. Vous êtes d'origine arménienne, enfin bon, tous ces trucs-là. On n'est pas arrivé au génocide, mais presque. Après, il y a eu le film. Et pour l'anecdote, je racontais tout à l'heure que dans le film, il y a un des pachas qui fume. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que la télévision turque, depuis un an ou deux, a pris la décision de ne plus jamais montrer une cigarette à la télévision. Comme quoi, la radicalité de l'européanisation bizarroïde continue. C'est bizarre, parce que c'est un peuple qui fume beaucoup, hein, comme au Moyen-Orient. Et on m'a demandé si ils voulaient qu'on floute ce moment-là, flouté, où ils ont l'habitude de mettre aussi une fleur à la place de la cigarette, une fleur dessinée. Et que je dis, mais vous savez, c'est un film d'animation, je trouve ça absurde. Donc je dis, mettez la fleur dessinée. Du coup, je l'ai vu, ce passage-là. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir le film gratuitement, le DVD sort bientôt, hein, avec le documentaire. Mais je crois que c'est sur YouTube et piqué de la télévision turque. Donc il y a une version avec fleur à la place de la cigarette qui est assez troublant. Non, ça s'est bien passé. Ce débat était assez éloquent. Ils en sont venus à parler des minorités à un moment donné dans le débat. C'est un débat assez technique sur qu'est-ce que c'était que le rôle des chiens des rues dans la cité et tout ça. Moi, le film le montre un petit peu, je trouve, la proximité des gens. Malheureusement, je n'ai pas pu traiter dans le court-métrage, mais je le traite beaucoup dans le documentaire. C'est pour ça que j'ai tenu à faire le documentaire. Mmh. C'est pour montrer que la population, elle est très sensible à cette question. Et pas seulement beaucoup à Istanbul, mais aussi dans le monde entier. Mais à Istanbul, c'est une vraie tradition, les chiens des rues. Ce n'est pas à cause de la pauvreté, ce n'est pas comme à Bucarest ou à d'autres endroits où c'est un petit peu la pauvreté qui a généré qu'il y ait des chiens de rue, sans laisse et tout ça. Là, c'est une vraie tradition. Les chiens des rues ont joué un rôle social très important, sauf qu'aujourd'hui, avec l'urbanisation, l'européanisation et tout ça, leur place est devenue peau de chagrin. Et les pauvres, c'est dur de les voir dans cette cité de 15 millions d'habitants, coincés dans des quartiers comme ça, mais ils continuent à être choyés et aimés par les gens qui les protègent. Et on voit dans le documentaire un chauffeur de taxi, une universitaire. Enfin, tu vois, par exemple, juste là, vous avez autre chose que des chiens ici.
Ah oui.
À l'ENS. Et ben, en Istanbul, sachez qu'il y a des universités privées comme ça, avec des parcs, où il y a 7-8 chiens des rues qui habitent là, qui sont nourris par les profs, par quelques élèves. Tu vois. Voilà, c'est ça les différences. Je veux dire, c'est une culture. Voilà. Et donc, j'ai assisté à tout ça. C'est ce qui m'a donné aussi envie vraiment de faire le documentaire. Et bon, je suis reconnaissant à la coproduction turque et au fait qu'il y a des gens progressistes en Turquie qui ont envie de parler, qui ont envie de montrer les choses. Ça permet d'ouvrir d'autres pages douloureuses de l'histoire et de pouvoir dialoguer. Moi, j'ai toujours été pour le dialogue, de plus en plus, mais je considère qu'il y a des responsabilités qui soient partagées, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un dialogue de sourds, il ne faut pas qu'un dialogue reste, je veux dire, aux confins de la politesse de « je sais, tu sais, je sais que tu sais, mais je ne pourrais pas faire grand-chose ». Les générations à venir vont se coltiner l'ignorance et vont se coltiner le mensonge de l'histoire si ça continue. Donc il faut vraiment que, je trouve que d'ici quelques années, là, d'ici le 100e anniversaire du génocide des Arméniens, ça sera en 2015, c'est donc demain, que les choses soient plus claires. Tu vois, qu'on se regarde pas en chien de faïence, qu'on essaye de balayer devant l'histoire. Ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire régler quelque chose, ça veut dire ouvrir des frontières, ça veut dire avoir des liens, ça veut dire pouvoir faire un deuil de part et d'autre, côté bourreau, côté victime, et sortir de ce rapport bourreau-victime. Voilà.
Eh bien, nous ferons le point dans 4 ans sur cette situation, pour voir si ça...
Non, mais avant, faites-le avant.
Oui, c'est de le faire avant.
Il y a plein de films à ce sujet, d'ailleurs, je terminerai avec ça. Au-delà de moi, il y a plein de gens qui préparent des films d'ici 2015 sur ces histoires-là, sur l'histoire, ça va être intéressant. Et je pense qu'il y a des réalisateurs turcs aussi jeunes, comme Fatih Akin et d'autres, qui vont faire des films d'ici là. Et ça, c'est très intéressant que ça vienne aussi de eux. Ce ne soit pas toujours le côté de la victimisation qui parle.
D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Serge.
Ben, merci à vous. Je suis très content d'avoir répondu à vos questions qui étaient claires, pertinentes, intéressantes, en tout cas, d'expliciter pour les gens qui verront le film ce soir ou qui ne l'auront pas vu, qui auront envie de le voir en DVD.
Voilà, pour donner envie aussi.
Voilà.
Eh bien, vous venez d'écouter Serge Avedikian sur Transistor. À bientôt et bonne écoute.